Radio Prague, les informations. Bonjour, le FMI prévoit un taux de croissance économique de 3% pour la République tchèque en 2015. Selon un sondage, l'expulsion des Allemands des Sudètes en 1945 de Tchécoslovaquie était inévitable pour 70% des Tchèques. Et puis enfin en sport, en squash, le Français Grégory Gauthier participera au tournoi final du championnat tchèque ce vendredi à Prague. On commence par de l'économie. Le Fonds monétaire international a revu son pronostic à la hausse et prévoit désormais une croissance économique de l'ordre de 3% pour la République tchèque cette année, ainsi qu'une stabilisation du taux à environ 2,5% à moyen terme. C'est ce qu'ont annoncé les représentants du FMI ce mercredi à Prague, à l'issue de leur mission d'analyse et d'évaluation. Selon eux, la demande intérieure et les exportations contribueront à cette croissance en hausse. Par ailleurs, ils estiment que la dévaluation de la couronne, la monnaie nationale, décidée par la Banque nationale tchèque à l'automne 2013, a été bénéfique. Récemment, cette même banque a fait savoir qu'elle entendait poursuivre au moins jusqu'à juin 2016 son régime d'intervention afin de maintenir le taux de la couronne par rapport à l'euro à un taux d'environ 27 couronnes l'euro. Pour 2015, rappelons-le, le ministère tchèque des Finances et la Banque nationale tchèque prévoient des taux de croissance respectifs de 2,7 et 2,6% au premier trimestre. La croissance du PIB en République tchèque s'est élevée à 2,8%. Politique, l'Agence pour l'intégration sociale devrait rester sous la direction du ministre en charge des droits de l'homme, Jiří Dienstbier. Toutefois, cette agence ne devrait finalement pas être scindée en plusieurs départements, comme il en avait été question un temps. Tel est le résultat de la réunion de mardi entre les représentants de l'Agence pour l'intégration sociale, qui protestent contre les projets de refonte de leur organisation, et le Premier ministre, Bohuslav Sobotka. Une autre réunion est prévue avec le chef du gouvernement d'ici fin mai, lequel espère qu'elle permettra de calmer les esprits. Rappelons que la crise qui oppose l'Agence au gouvernement fait suite au limogeage du directeur de l'Agence, Martin Šimaček, par le ministre en charge des droits de l'homme. 70 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, une majorité de Tchèques considère toujours aujourd'hui l'expulsion des Allemands des Sudètes comme inévitable et juste, du moins pour 70% des personnes interrogées. Tel est le résultat d'une enquête conjointe de l'agence NMS Market Research et de l'organisation Pamiet Naroda, Mémoire de la Nation. 82% des personnes interrogées estiment qu'il n'est en aucun cas nécessaire de procéder à des restitutions de biens aux descendants de ces Allemands expulsés, et 2/3 des Tchèques estiment que la République tchèque n'a pas à s'excuser pour cette expulsion. Toutefois, 78% des sondés reconnaissent que les violences commises contre ces concitoyens d'origine allemande qui vivaient en Tchécoslovaquie étaient injustes. Selon l'organisation La Mémoire de la Nation, environ 40 000 Allemands des Sudètes vivraient encore aujourd'hui en République tchèque. Et puis, la question des Allemands des Sudètes continue de diviser la société tchèque. Mardi, les représentants de la ville de Brno, la capitale morave, ont adopté une déclaration dans laquelle ils exprimaient leurs regrets quant à l'expulsion des populations allemandes de la ville après donc la Seconde Guerre mondiale. 1700 personnes sont mortes lors de la marche menant ces Allemands de Brno en Autriche. Cette déclaration a toutefois suscité la controverse chez certains politiques, estimant qu'une déclaration de réconciliation devait être réciproque. On passe au sport. Actuel 3e meilleur joueur au monde et récemment encore numéro 1 mondial de squash, le Français Grégory Gauthier participera au tournoi final de l'Extraliga tchèque, le championnat local, ce vendredi à Prague. L'ancien double vainqueur du prestigieux British Open, qui est marié à une tchèque et vit à Prague, défendra les couleurs de Buldoci, un club qu'il a fondé il y a 4 ans de cela et au sein duquel évolue également son bon frère et meilleur joueur tchèque de ces dernières années, Jan Kohl. Les matchs de cette finale seront disputés au Squash Park Cibulka, c'est dans le 5e arrondissement de Prague. On termine comme toujours avec un mot de météo. Après une journée de mercredi qui a dû ravir jardiniers et agriculteurs, le ciel reste très couvert ce jeudi, jour de la fête des Monica. Les précipitations sont plus importantes dans la moitié est du pays. Des éclaircies sont attendues en revanche en Bohême de l'Ouest et centrale dans l'après-midi. Quant aux températures, elles varient entre 12 et 16 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information qu'a eu le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. Merci également de rester en notre compagnie et plus précisément en la compagnie d'Anna Kubishta pour la suite de notre programme dont nous vous souhaitons bien entendu une excellente écoute. Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission et merci à Guillaume Narguet pour son bulletin d'information. Une campagne visant à encourager des familles à accueillir des enfants pour une courte durée déterminée a été lancée afin d'éviter que ces enfants ne se retrouvent automatiquement placés en centre d'accueil. Le théâtre de Caen propose une création de l'opéra tchèque Brungibar à l'occasion des 70 ans de la libération des camps de concentration. Nous discuterons de ce projet lyrique et pédagogique avec la médiatrice culturelle du théâtre de cette ville de Normandie. Tout ceci, ce sera avant notre rubrique historique consacrée aujourd'hui à la ville de České Budějovice. Bonne écoute. Plus de 8000 enfants en République tchèque vivent actuellement dans des centres d'accueil, soit un des chiffres proportionnellement à la population du pays les plus élevés d'Europe. Pour tenter d'améliorer la situation, le ministère du Travail et des Affaires sociales a lancé une campagne intitulée Pravo na dětství, le droit à l'enfance, dont l'objectif est d'augmenter le nombre de familles pouvant accueillir temporairement des enfants en difficulté avant que ceux-ci ne reviennent dans leur famille biologique ou qu'ils ne trouvent une famille d'adoption. Alžběta Ticha.
La campagne Pravo na dětství veut réduire le nombre d'enfants vivant dans les centres d'accueil. Le ministère souhaite que ces derniers soient désormais remplacés par des familles professionnelles qui accueilleraient des enfants pour une courte période, limitée à une durée maximale d'un an, soit pour une période de transition leur permettant de résoudre leur situation familiale, mais tout en les plaçant dans un milieu stimulant. Ministre du Travail et des Affaires sociales, Michaela Marksová-Tominová, précise sur ce point.
La campagne fait partie d'un projet de longue durée qui veut transformer le système de la protection de l'enfant dans notre pays. Il ne s'agit pas seulement d'une campagne visant à soutenir le développement des familles d'accueil. Elle veut avant tout avertir le public professionnel et les politiques des problèmes que rencontre l'enfant en difficulté et souligner qu'il faut faire le maximum pour que l'enfant puisse rester dans sa famille ou sinon montrer quelles mesures il faut prendre pour minimiser ses frustrations.
L'accueil de l'enfant pour une courte durée déterminée existe en République tchèque depuis 2006, mais n'a été mis en pratique qu'à partir de 2013. Il reste actuellement, et pas seulement aux yeux de l'opinion publique, moins apprécié que les formes plus traditionnelles, l'accueil pour une période indéterminée ou l'adoption. Même si la plupart des experts en la matière soulignent qu'un environnement familial peut aider à prévenir la privation psychologique produite souvent par des séjours dans les centres d'accueil, cette campagne a trouvé également ses adversaires, entre autres en raison de rémunérations financières destinées à ses assistants familiaux professionnels. Nous écoutons la députée Radka Maxová du mouvement ANO.
Être ou mère ou père n'est pas une qualification suffisante pour pouvoir devenir un parent d'accueil. Je ne suis pas tout à fait sûre qu'il faille préférer les familles professionnelles au centre d'accueil. Ce type de prise en charge existe en République tchèque depuis 2 ans et pour l'instant, nous n'avons pas d'analyse qui confirmerait ces avantages. De plus, je pense que cette campagne était également ciblée sur la réduction du chômage. Je ne veux pas mettre en cause quiconque, mais je crains qu'un certain nombre de demandeurs d'emploi puissent y voir une simple possibilité de gain. Pour ces raisons, il faut que la procédure de sélection et les mécanismes de contrôle dans le choix des candidats convenables fonctionnent bien. Et je crois qu'il y a encore des choses à améliorer.
La rémunération représente actuellement 20 000 couronnes par mois lorsque la famille s'occupe d'un enfant, mais aussi lorsqu'elle fait partie du programme d'accueil mais n'a pas d'enfant en charge. C'est justement ce dernier point qui suscite la controverse. Michaela Marksová-Tominová s'oppose à ces arguments en indiquant que ces rémunérations ne servent qu'à couvrir les besoins de la famille liés à l'accueil de l'enfant et souligne que les frais relatifs aux soins des enfants dans les familles d'accueil sont plus bas que ceux concernant les enfants vivant dans les établissements d'enfants.
En ce qui concerne les familles d'accueil à courte durée déterminée, nous attendons que leur nombre augmente. Mais le but est surtout d'assurer la possibilité pour un enfant nouveau-né qui attend soit de retourner dans sa famille, soit le moment de trouver une famille d'adoption, de rester dans une famille plutôt que dans un centre d'accueil pour nourrissons. Néanmoins, nous ne cherchons pas de famille d'accueil à tout prix. Le processus de sélection des candidats s'étale sur une longue période de 9 à 12 mois. Et après cette sélection, les futurs parents d'accueil doivent assister à un cours d'au moins 72 heures, qui ne concerne pas seulement la prise en charge de l'enfant, mais qui les prépare également, par exemple, à la communication avec la famille biologique, ce qui est sans doute difficile.
Bien qu'en 2014, le nombre de familles d'accueil à courte durée déterminée soit passé de 153 à 421, ce nombre n'est en aucun cas suffisant. Cette campagne promet ainsi, à travers différents projets qui se tiendront jusqu'au mois d'octobre, d'informer le public et les professionnels sur toutes les possibilités qui s'ouvrent actuellement dans ce domaine de l'aide sociale.
Le théâtre de Caen présentait mardi et mercredi une création de l'opéra tchèque Brundibar de Hans Krása. Cet opéra pour enfants est un conte mettant en scène Aninka et Pepiček qui, afin d'offrir du lait à leur mère malade, décident de chanter sur la place de leur village pour gagner de l'argent. Le méchant Brundibar, personnage inspiré d'Adolf Hitler, les en empêche. La création de l'opéra à Caen est accompagnée d'un ambitieux projet pédagogique de qualité. Soraya Brière est médiatrice culturelle au théâtre de Caen. Elle en a dit davantage au micro de Radio Prague.
Alors, à la base, c'est l'idée du théâtre de Caen et de la maîtrise de Caen qui avait déjà travaillé avec le metteur en scène Benoît Bénichoux de créer cet opéra à l'occasion du 70e anniversaire de la libération des Caen. Le théâtre et la maîtrise avaient fortement envie de s'impliquer dans cet événement et Brundibar semble être une œuvre tout à fait pertinente pour ça, pour engager aussi les enfants de la maîtrise dans ce projet. Donc après, tout naturellement, on a réfléchi. Moi, je m'occupe de la médiation culturelle, donc c'était une évidence pour moi de construire un projet pédagogique avec la maîtrise et le metteur en scène pour des classes de Caen.
Alors, juste quelques mots pour rappeler, qu'est-ce que c'est que cet opéra Brundibar?
Brundibar, c'est un opéra pour voix d'enfants qui a été joué dans un contexte très particulier, puisqu'il a été joué 55 fois dans le camp de Theresienstadt et à l'occasion, notamment en 1944, de l'inspection par la Croix-Rouge du camp, qui servait de vitrine aux nazis. Enfin, c'était vraiment un camp de propagande. Même si l'opéra avait été créé par Hans Krása et Adolf Hofmeister en 1938, avant leur déportation en 1941 en camp de Theresien, cet opéra a été joué là-bas, donc nous, on réfléchit aussi à ce contexte historique.
Comme vous le disiez tout à l'heure, c'est accompagné, cette création d'opéra, de tout un projet pédagogique avec des scolaires depuis le début du mois de mai. Est-ce que vous pourriez un peu nous en parler un peu plus justement de ce projet pédagogique, comment est-ce qu'il s'articule autour de l'opéra ?
Alors, le projet a commencé au mois de novembre, en fait. C'est un projet qui a duré plusieurs mois. C'est un projet qui concerne 140 élèves de primaire et 550 collégiens et une soixantaine d'étudiants. Donc, c'est des tranches d'âge assez différentes. À partir du mois de novembre, on a travaillé en très forte collaboration avec le Mémorial de Caen, donc Théâtre de Caen et Mémorial de Caen, pour proposer aux élèves tout un parcours à la fois de découverte artistique, de découverte du monde de l'opéra, du chant, des métiers de l'opéra, et puis une découverte, bien sûr, du contexte historique. Donc les élèves ont rencontré d'anciens déportés, soit des anciens enfants cachés, des auteurs de bandes dessinées qui ont travaillé sur la Shoah, des auteurs de romans jeunesse, ils ont visité le mémorial, ils ont visité le théâtre de Caen, on leur a fait suivre des cours de chant pour apprendre le chœur final de l'opéra et une chanson qui est rajoutée à l'opéra qui s'appelle la chanson de Theresienstadt. Et en fait, il y a eu énormément de rendez-vous. Ensuite, chaque classe s'est spécialisée un peu selon ses envies. Soit on fabriquait des affiches, on créait des affiches du spectacle, soit on créait des courts-métrages d'animation, des poèmes, des chorégraphies. Voilà, chaque classe est impliquée artistiquement pour avoir son mode d'expression sur ce projet.
C'est intéressant justement d'avoir pris cet opéra Brandybar, qui est un opéra chanté par des enfants, qui est un spectacle qui est destiné hein, justement aux enfants. Et comment est-ce que réagissent justement tous ces élèves, ces jeunes élèves qui ont été impliqués parce qu'évidemment c'est un thème quand même un peu compliqué quoi, d'aborder la Seconde Guerre mondiale avec de tout jeunes enfants.
Oui. Alors c'est vrai que les réactions sont différentes en fonction de l'âge. Finalement, les élèves de primaire, les plus jeunes, quand ils ont une dizaine d'années, c'est maladroit ce que je vais dire, mais ça passe mieux. Enfin, ce sont des élèves qui, je pense, ne se rendent pas compte de tout ou vont être très marqués par les rencontres avec les anciens enfants cachés, les témoins de l'histoire. Mais les élèves de troisième, notamment, ont énormément de questions et d'incompréhension vis-à-vis de cette période de l'histoire. Donc on a eu de longues discussions avec eux. Ils ont de l'incompréhension aussi vis-à-vis du rôle de la Croix-Rouge. En ce moment, il y a une exposition sur la Croix-Rouge pendant la guerre au mémorial de Caen. Et c'est vrai que ça les a beaucoup questionnés. Donc ça a donné lieu à plus de questions, plus d'échanges que ce qu'on aurait imaginé au départ. Et d'ailleurs, c'est très très bien. Hein, mais et puis il y a des élèves qui nous ont demandé, ça les questionnait beaucoup aussi de savoir comment est-ce que des maîtrisiens aujourd'hui peuvent chanter, peuvent reprendre le rôle d'enfants qui ensuite ont été exterminés à Auschwitz. Ça, c'était au début peut-être un peu délicat pour eux à comprendre ou à ressentir.
Juste pour terminer, il y a encore un concert d'hommage aux musiciens de Térésine, si j'ai bien compris.
Oui, samedi. Oui, tout à fait. Donc voilà, c'est l'orchestre régional de Basse-Normandie qui joue l'opéra, qui va en plus reprendre quelques partitions pour faire ce concert d'hommage samedi. Donc voilà, c'est un concert en entrée libre. On a programmé tout un tas de rendez-vous autour de Brandybar, des conférences et notamment ce concert pour que les gens puissent découvrir aussi de la musique tchèque qui n'est pas assez jouée, je pense, à Caen parce qu'elle est magnifique. On a une très belle découverte musicale. Zemřel mu dávno tatíček, za ruku vede paníku, mají nemocnou maminku.
« 750 ans, c'est déjà un bel âge. C'est celui que célèbre cette année la ville de České Budějovice, la capitale de la Bohême du Sud. Sur ordre du roi Přemysl Otakar II, son chevalier vassal Irzo crée officiellement cette cité en l'an 1265 à la confluence de la Vltava et de la Malchée. Retour aujourd'hui sur l'histoire de cette ville, connue notamment sous son nom allemand Budweiss, à travers le divin breuvage qui y est produit, la bière Budweiser Budvar. » Pierre Maignan pour cette rubrique historique.
Chapitre de l'histoire.
Že v českých Budějovicích by chtěl žít každý.
Ano.
Co to je za blbost? Byl jste někdy v Budějovicích?
Tout le monde aimerait vivre à České Budějovice, sauf moi donc. Cette phrase extraite d'une pièce de théâtre de l'ingénieux Yara Timmerman, personnage fictif créé par Zdeněk Svěrák et Ladislav Smoljak, est devenue un dicton populaire. Il faut dire que České Budějovice, cité considérée par le poète tchèque Jan Neruda comme la Florence des campagnes de Bohême, ne manque pas de charme. La ville, arrosée par la Vltava et la Malchée, repose paisiblement au pied des contreforts du massif de la Šumava. Ce n'est toutefois pas pour des considérations bucoliques que le roi Přemysl Otakar II donc décide de sa fondation au XIIIe siècle. Dans le cadre de sa politique de puissance, il s'agit pour lui d'assurer une route vers l'Autriche et de contrebalancer le pouvoir des seigneurs locaux de la famille des Vítkovci, à laquelle appartiennent les Rožmberk, lesquels ont marqué de leur empreinte le territoire de la Bohême du Sud. Historien à l'Institut d'Histoire de l'Académie des Sciences de République Tchèque, Josef Jemlička explique l'élévation de Budějovice au rang de ville royale.
Přemysl Otakar II uvažoval strategicky, by se dalo říci.
Les considérations de Przemysl Otakar II étaient stratégiques, pourrions-nous dire. Jusqu'en 1262, il n'a pas manifesté un grand intérêt pour cet espace, car il entretenait de bonnes relations avec le noble Vok de Rogenberg. Mais celui-ci meurt en 1262 et Przemysl Otakar II commence alors à s'intéresser à cet espace. Przemysl Otakar II a choisi l'endroit de la fondation de la ville et un fondateur très bon et expérimenté, le seigneur appelé Hirzo.
To byl jistý pán Hers, nebo Hirzo, jak bychom řekli.
Cette fondation a laissé des traces dans le plan de la ville. Elle se constitue autour d'une place de forme carrée de 133 mètres sur 133 mètres qui porte aujourd'hui le nom de place Przemysl Otakar II et présente une organisation quadrillée de rues rectilignes se croisant à angle droit. Le chevalier Hirzo cède des terres à des frères de l'ordre dominicain qui bâtissent à l'ouest de cet espace une église et un couvent qui ne sera achevé que 200 ans plus tard. La cité s'entoure également rapidement de murailles qui deviendront obsolètes au XIXe siècle quand les faubourgs de la municipalité s'étendent. D'ici là, elles auront tout de même bien servi, d'abord à protéger la ville lors des récurrents conflits entre le pouvoir central et les seigneurs locaux, en particulier les fameux Rogenberg, les maîtres de la ville de Český Krumlov, un peu plus au sud, mais également durant les guerres hussites dans la première partie du XVe siècle. Budějovice soutient alors le roi Sigismond de Luxembourg dans sa lutte contre les hérétiques. Václav Bůžek est historien à l'université de Bohême du Sud. Il raconte.
Budějovice byly katolické město a husitství, které tedy vzniká.
Budějovice était une ville catholique et les Hussites, basés à Tabor, un peu plus au nord, arrivaient avec de nouvelles idées. Jan Žižka, le chef de guerre hussite, a tenté de prendre la ville, mais il n'y est pas parvenu. Il est arrivé dans les environs de České Budějovice, mais il n'a jamais pu rentrer dans la ville. Lors de l'épopée hussite, České Budějovice était une ville fortifiée et elle est devenue une sorte de refuge pour quelques chevaliers qui recherchaient un abri face aux attaques du chef hussite.
Soutien décisif du pouvoir royal au sud de la Bohême, České Budějovice, idéalement situé, devient de surcroît un important centre de commerce, ainsi que le développe Josef Jemlička.
České Budějovice avait d'une certaine façon un monopole sur le sel importé depuis la Bavière, puis principalement depuis le pays de Salzbourg. Le sel était une matière première très demandée déjà au Moyen-Âge en Bohême. Mais la Bohême ne disposait pas de réserve de sel dont elle était dépendante de l'importation, soit depuis la Pologne avec le sel de Transylvanie, soit donc du sel de la région de Salzbourg. České Budějovice a tiré profit de sa situation géographique avantageuse et les marchands de la ville se sont donc largement enrichis. Mais il n'y avait pas seulement le sel, il y avait aussi le vin autrichien, le poisson et ainsi de suite. Dès sa fondation en tant que ville royale, České Budějovice était donc non seulement une ville de production, mais aussi un important centre de commerce.
Bylo tedy nejenom producentem, ale bylo i velkým obchodním centrem.
Une richesse dont témoigne aujourd'hui, par exemple, l'entrepôt bâti au XVIe siècle et situé sur la place des Piaristes. Le bâtiment remarquablement conservé a servi de grenier à sel, mais également d'arsenal et a été utilisé jusqu'en 1960. À peu près en même temps que la construction de cet entrepôt est bâtie la tour noire qui domine la place Przemysl Otakar II et tout le vieux centre-ville du haut de ses 72 mètres et qui assurait une fonction de surveillance. Elle est aujourd'hui une attraction touristique est l'un des symboles de la ville. À la Renaissance, celle-ci profite également de la production et du commerce du minerai de fer. Sa prospérité ravive les tensions avec la famille des Rogenberg, dont les représentants tentent par exemple de s'emparer du domaine de Hluboká et de son château à quelques encablures au nord de České Budějovice pour affaiblir la position de la ville. La rivalité entre ces seigneurs et la ville royale est également aquacole à travers l'aménagement d'innombrables étangs dans la région. Comparativement à d'autres cités à l'échelle européenne, České Budějovice souffre relativement peu de la guerre de 30 ans dans la première partie du XVIIe siècle. La ville, qui est alors le refuge des joyaux de la couronne de Bohême, est surtout affectée par un terrible incendie en 1641 qui détruit nombre de ses édifices de style Renaissance. Aussi, au sortir du conflit qui ensanglante le vieux continent, la métropole du sud de la Bohême n'a plus tout à fait le même visage. Josef Žemlička.
V 16. století, kolem poloviny 16. století, měly Budějovice asi 4,5 tisíce obyvatel.
Vers la moitié du 16e siècle, il y avait probablement environ 4 500 habitants à České Budějovice. Quand on regarde un siècle plus tard, il y a à peu près 3 200 habitants. Donc en un siècle, il y a une perte de plus de 1000 habitants.
3 200, takže ten úbytek, tak něco kolem 1000, 1200 obyvatel.
Cela n'empêche pas České Budějovice d'être élevé au rang d'évêché et d'assurer en conséquence un rôle religieux et éducatif majeur dans la région. La ville accueille également une importante communauté juive, victime de persécutions notamment au début du XVIIe siècle. Il faut également mentionner les différentes nationalités tchèques et allemandes qui cohabitent dans la cité depuis sa fondation dans des proportions probablement égales selon Václav Boužek. Le pouvoir est toutefois d'abord concentré entre les mains de famille d'origine allemande, même si les Tchèques prennent peu à peu de l'importance. Dans le cadre de la domination des Habsbourg en Europe centrale, České Budějovice est d'ailleurs significativement tournée vers Linz et la Haute-Autriche. Son économie se développe dans ce sens. C'est ce dont témoigne la mise en service en 1832 de la première ligne de chemin de fer hippomobile en Europe entre les deux villes suscitées. L'industrialisation est en marche avec le transfert par exemple depuis Vienne de l'usine de fabrication de crayons Kohinoor, ou évidemment avec la production de bière, la Samson et bien sûr la Budweiser Budvar, qui jouit d'une renommée internationale, peut-être liée en partie au conflit commercial séculaire avec la marque américaine Budweiser. Le dynamisme économique de la ville a aussi été favorisé par la concurrence qui pouvait régner entre Allemands et Tchèques. Josef Grulich, de la faculté de philosophie de l'université de Bohême du Sud, poursuit.
En fait, lors de la création de la Tchécoslovaquie, Tomáš Garrigue Masaryk traverse České Budějovice lors de son retour dans sa patrie. Il y effectue même une visite, le 20 décembre 1918. Il y est bien accueilli, d'autant plus qu'il y a eu en octobre un changement des représentants de la ville, un changement qui permet à la partie tchèque de jouer les premiers rôles. En ce qui concerne les relations entre les Tchèques et les Allemands, je dirais qu'elles ont toujours été très correctes. C'est ce qu'illustre le pacte de České Budějovice, qui était une tentative de se mettre d'accord sur les questions relatives à l'administration de la ville ou à l'éducation.
Selon Josef Žemlička, l'université de Bohême du Sud, fondée en 1991, est d'ailleurs bien plus orientée vers le monde germanique, la Haute-Autriche et la Bavière, plutôt que vers le reste de la Bohême. Cet isolement géographique au sud de la République tchèque explique d'après lui le fort conservatisme qui régnerait sous ces latitudes.
Fin de ce programme en français de Radio Prague. L'actualité tchèque continue, on va y arriver. Elle continue sur le site internet de Radio Prague, le www.radio.cz/fr, mais également sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Merci de votre fidélité. Bon vent. Ahoy.